à la une ce soir.
J'ai entendu un boom, je me suis viré de bord, un véhicule qui fonçait sur moi, puis les gens revolaient partout.
On a vécu quelque chose hier qu'on n'est pas habitué de vivre dans une communauté de 6200 habitants.
Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis député de la Matapédia. Certainement, les jours les plus difficiles que je vis dans mes fonctions.
Il y a près d'une centaine de policiers là, qui sont au travail pour être capables de comprendre la scène de crime.
Je veux remercier toutes les personnes qui ont aidé depuis 3 heures hier après-midi.
On a vu une solidarité de la part de tous ces gens-là.
On confirme qu'on a des 6 patients, 3 patients qui sont toujours instables dans une situation jugée critique.
Je veux commencer évidemment en envoyant toutes nos meilleures pensées aux gens d'Emkoui.
Qu'est-ce que collectivement on pourrait faire pour que de telles tragédies n'aient pas lieu?
Bonsoir. C'est une autre folie meurtrière totalement incompréhensible. Un acte barbare envers des victimes sans défense. 2 morts, 9 blessés, dont des enfants, qui se sont malheureusement retrouvés sur la route d'un chauffard de 38 ans hier après-midi à Amkoui. Aujourd'hui, c'est toute la communauté de la vallée de la Matapédia qui est ébranlée, choquée. Il y a plusieurs aspects abordés, donc nos équipes suivent ça pour nous, notamment en direct d'Amkoui. Marie-Michel, d'abord, le suspect a comparu cet après-midi?
Oui, Steve Gagnon fait face à 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort.
Véronique, la bonne nouvelle de la journée, 2 enfants blessés viennent d'avoir leur congé de l'hôpital.
Oui, un enfant de 3 ans et un autre de moins d'un an qui peuvent retourner à la maison ce soir, mais il reste encore 3 blessés dans un état critique.
Et Laurence, c'est toute la communauté qui est sous le choc là-bas.
Oui, sous le choc, mais aussi sous l'incompréhension, hein, parce que c'est pas sans rappeler les événements qui sont survenus à Laval le mois dernier. Et on le sent ici, là, les gens, là, ont les coudes serrés. Par contre, il y avait des intervenants qui se promenaient sur le terrain toute la journée. Il y a les cloches de l'église qui ont sonné là, aux alentours de 15 heures. Donc, au moment, l'heure à laquelle l'accident est survenu, en l'hommage aux victimes, à leurs proches également. Il y a des élus aussi qui sont venus dans la région pour soutenir ces gens. Mais clairement, là, dans la population, c'est l'émotion qui est bien présente. D'ailleurs, je vous invite à écouter le reportage que je vous ai préparé aujourd'hui.
Le véhicule a fauché toutes les personnes qui étaient sur le trottoir.
Le monsieur qui a passé en dessous de la voiture, c'est ça que j'ai dans la tête. Lui, il était vivant quand j'arrivais, puis quand j'étais allé à l'autre personne, j'ai revenu, il était décédé. Moi, puis les ambulanciers, André Langis, puis tout ça, on l'a embarqué sur la civière. Ouais.
C'est un drame sans nom auquel ont assisté des citoyens d'Amkoui juste ici au centre-ville hier aux alentours de 15 heures. Un drame qui marque les esprits, surtout dans une petite communauté de quelques 6000 personnes.
C'est qu'on se connaît tous. Tu sais, tu pars à la course, puis en même temps, tu slaques un peu parce que tu te dis, oh, là, tu penses à tes enfants, moi, j'ai des enfants. Tes chums, c'est sûr que tu vas connaître les gens, là, tu sais.
Les gens étaient couchés par terre. J'ai tenté de... Un monsieur, j'ai mis un gant en dessous de sa tête. Il avait la face couchée au sol. La petite fille, dans sa poussette, là, était avec sa grand-mère couchée en dessous.
C'est sûr, c'est l'état de choc. Les gens se sont textés rapidement. Les gens se sont téléphonés. Les gens voulaient savoir, c'était qui était touché.
Mais ça, c'est une tragédie. C'est une chose qui a été causée par un être humain. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je pense que pour l'instant, il faut se recueillir plutôt puis penser aux personnes qui sont décédées. Laisser de côté d'être fâché comme je le suis présentement.
Devant ce choc, cette incompréhension, cette frustration, il y a des élus qui se sont présentés sur la scène du présumé crime un peu plus tôt aujourd'hui.
Tu sais, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis député de la Matapédia. Certainement, les jours les plus difficiles que je vis dans mes fonctions. C'est un drame épouvantable qui touche la Matapédia en plein cœur de son centre-ville.
Cette folie meurtrière, c'est difficile de l'empêcher. C'est difficile de l'empêcher. On pourrait tout mettre en place, puis demain matin, quelqu'un décide d'embarquer encore dans une voiture, dans un camion, et de frapper. Mais ça, c'est mon devoir, c'est notre devoir comme élu, puis de travailler avec les oppositions, puis de faire l'exercice, puis de se dire qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour prévenir.
Je pense que quand j'ai été élue mairesse pour la ville d'Amkoui en 2021, il n'y avait pas de livre d'instruction vraiment qui disait comment faire. On nous disait qu'il allait y avoir des situations différentes qu'il fallait gérer. Et je suis là pour les citoyens d'Amkoui.
Les quelqu'un qui marche régulièrement dans la rue, il y en a beaucoup quand même un coup. On a une belle ville pour ça, pour prendre des belles marches. Là. Mais je pense qu'il se doit de continuer à marcher pour ces gens-là, de penser à eux, je pense. Je dois dire en mémoire de ces deux personnes-là.
Bon, Marie-Michel, on le voit, on l'entend, l'accusé Steve Gagnon est arrivé au palais de justice d'Amqui sous une pluie d'insultes.
Oui, le présumé meurtrier est arrivé vers 14h30. Monsieur Gagnon, qui est connu pour avoir des antécédents en matière de santé mentale, c'est un homme qui travaille dans l'industrie du camionnage. Il y avait des dizaines et des dizaines de citoyens en colère, mécontents. Marie-Christine, qui était sur place au palais de justice aujourd'hui, il a reçu une pluie d'injures à son arrivée. Il était habillé avec des pantalons sport, vous voyez, T-shirt gris. Il n'a pas dit un mot durant sa comparution. Et on pouvait sentir là, sur le terrain toute cette crainte, cette peur, cette colère de la part des citoyens. Là, les images que vous voyez présentement, eh bien, c'était à sa sortie parce que les citoyens d'Amqui ont voulu rester jusqu'à sa sortie pour continuer à l'invectiver. On écoute une citoyenne justement qui était présente au palais de justice.
Moi, je suis venue par solidarité pour les gens. C'est terrible qu'est-ce qui est arrivé, vraiment. Moi, je suis arrivée là-dessus hier. J'aimerais passer un message, par exemple. Tu sais, cet homme-là, il a une famille. J'aimerais que les gens soient aussi solidaires avec cette famille-là qu'avec les victimes, parce que c'est vraiment triste ce qui est arrivé.
Bon, Marie-Michel, Steve Gagnon fait face à deux chefs d'accusation, mais c'est pour le moment.
Oui, conduite dangereuse ayant causé la mort. Il y a deux personnes qui ont perdu la vie. Il faut comprendre qu'en ce moment, avec les éléments de preuve que le directeur des poursuites criminelles et pénales avait aujourd'hui, c'est les accusations qu'il pouvait donner. Ceci dit, le DPCP a été très clair. Il va y avoir des accusations supplémentaires, possiblement des accusations de conduite dangereuse ayant causé des lésions parce qu'il y a des blessés et fort possiblement des accusations de meurtre, soit meurtre au premier degré ou soit meurtre au deuxième degré parce que l'acte, selon la Sûreté du Québec, était prémédité. Mm-hmm. On écoute là-dessus le procureur.
Il y aura d'autres accusations qui vont être portées là, ultimement lorsque l'enquête aura été terminée. On aura pu se pencher sur l'ensemble de la preuve. Il est trop tôt pour se positionner au niveau du meurtre. Les accusations là, de conduite dangereuse causant la mort, la preuve était suffisamment solide là, pour aller de l'avant avec ce type d'accusation-là. Par contre, avant de se positionner là, au niveau d'un meurtre, que ce soit prémédité ou non, là, on doit laisser les policiers, qui travaillent d'ailleurs d'arrache-pied là, depuis hier, pour mener leur enquête à bien.
Donc, l'enquête se poursuit. Steve Gagnon sera de retour devant les tribunaux le 5 avril prochain.
Merci, Marie-Michel.
Bye-bye.
Je poursuis la discussion avec notre collaboratrice, l'avocate criminaliste Nada Boumafta. Bonsoir, Nada.
Bonsoir.
On parle de deux chefs d'accusation, Nada. Conduite dangereuse causant la mort, mais là, on l'entendait avec Marie-Michel. Il y a d'autres accusations qui pourraient éventuellement être déposées. Évidemment, il faut laisser le temps aux policiers de faire leur enquête. Mais on parle d'un geste délibéré. Pourquoi ne pas avoir d'entrée de jeu, justement, de déposer des accusations de meurtre?
Bien, en fait, la question va se poser là, sur la préméditation, effectivement, du meurtre. Oui, un geste délibéré au moment des faits, mais la préméditation doit être prouvée également hors de tout doute raisonnable lorsqu'on pose une accusation de la sorte. Sinon, on tombe à un meurtre deuxième degré. Alors, on verra là, qu'est-ce que le DPCP tranchera en fonction des éléments de preuve qui leur seront donnés.
L'accusé reste détenu. C'est pas étonnant, évidemment, compte tenu des circonstances. Mais là, il n'y a pas d'évaluation psychiatrique qui a été demandée. Est-ce que ça signifie pour toi que bon, les processus n'ont aucun doute, que les procureurs, pardon, n'ont aucun doute sur son aptitude à comparaître?
Bien, il a comparu aujourd'hui, c'est ce qu'on comprend. Donc, il est considéré comme étant apte à comparaître. Maintenant, la question de la responsabilité criminelle demeure. Et ce n'est pas nécessairement à ce stade-ci qu'on doit demander ce type d'expertise-là, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit fait dans le futur de ce dossier-ci. Mais quant à son aptitude, donc sa compréhension de ce qui se passe autour de lui et de comment le processus judiciaire se passe, semble être correct et donc apte à procéder.
Est-ce qu'il peut y avoir une intention spécifique de tuer sans pour autant qu'il y ait une préméditation?
Oui, absolument. Et c'est là la différence là, entre le meurtre premier degré, qui est un meurtre qui est prémédité, c'est-à-dire qu'il y a préparation. Pensons, exemple, là, à ce qu'on peut voir dans des films, là, d'un plan préparé, planifié, et ensuite on passe à l'acte. Mais la question là, de délibérer, c'est au moment des faits, là, monsieur, de ce qu'on comprend de l'enquête, il était peut-être conscient de ce qu'il faisait, donc de foncer, charger des gens avec son véhicule pour clairement le causer des blessures ou la mort de gens qu'il va happer. Alors, toutes ces questions-là seront peut-être soulevées. On verra si ce sera en négociation ou si on ira devant procès.
Et le fait, en terminant, qu'il se soit livré lui-même par lui-même, Nada, est-ce que ça peut être un facteur atténuant?
Bien, que ce soit livré, c'est une chose. Le facteur atténuant qu'on considère sous le code criminel sur sentence, rappelons que c'est là où on parle de facteur atténuant ou aggravant, c'est le fait de plaider coupable devant les tribunaux. On verra ensuite qu'est-ce que cet aveu-là va apporter à la cause. D'abord, s'il sera considéré comme admissible ou non. Et s'il l'est et qu'il a effectivement admis tous les gestes qu'il a commis, bien, rappelons que ça devient une preuve quand même assez solide de la part de la poursuite. Et de l'autre côté, en défense, on peut plaider effectivement qu'il acquiesce au geste qu'il a commis, qu'il ne nie rien, mais ça ne veut pas dire qu'il a des remords, par exemple, et ça ne veut pas dire non plus que ce sera considéré effectivement comme facteur atténuant sur sentence, même que ça va que confirmer peut-être les gestes graves qu'il a causés hier, malheureusement.
On va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup, Nada.
Au plaisir, au revoir.
Je retrouve maintenant ma collègue Véronique. Les deux victimes de cette tragédie-là, Véronique, étaient connues dans la communauté, hein?
Ah oui, vraiment. Jean Lafrenière, 73 ans, et Gérard Charest, 65 ans. Lui, il allait prendre sa retraite. Il prenait sa marche là, tous les jours, de façon quotidienne. Donc, il était très connu. La petite famille aussi, la maman avec ses deux enfants. Bonne nouvelle, ce soir, les deux enfants peuvent retourner à la maison, dormir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec la mère? On ignore quel est son état, mais selon sa sœur qui a publié une vidéo sur Facebook, elle est dans un état stable.
Les deux victimes dans cette affaire sont deux hommes originaires d'Albertville, une toute petite municipalité qui compte 200 habitants. J'en parle avec le maire qui les a lui-même connus personnellement. Monsieur Landry, mes condoléances.
Merci. J'ai opéré un dépanneur comparé d'une petite communauté comme chez nous. Un dépanneur, il n'y en a pas 12, il y en a souvent seulement un. Donc, le dépanneur central où tous pouvaient aller, tous rencontrer Jean. Du côté de Gérald connaît depuis très, très longtemps. C'est une belle famille, une belle grande famille, des gens incroyablement gentils, rigolos, avec lesquels on pouvait toujours faire des farces. J'ai quand même parlé à plusieurs personnes, évidemment, mais c'est sûr, tout le monde est un petit peu dans le même état d'esprit. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi... quel est le motif, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas le croire.
On a eu une analyse clinique, une régulation médicale qui a été faite et on a jugé que l'instabilité des patients était d'un niveau tel qu'on devait les transférer en centre tertiaire. Et centre tertiaire étant le plus haut niveau de criticité, autant pour les soins intensifs, on parle de soins intensifs avec intubation par exemple.
Via Messenger, nous avons aussi parlé à Suzanne Ouellette, dont le frère est actuellement dans un état critique à l'Enfant Jésus de Québec. Il est en traumatologie, mais il aurait quand même repris conscience.
Je viens de parler à ma petite sœur. Tout va bien, je vous rassure. Ma petite sœur va être opérée à la jambe. Les enfants vont bien, ils vont avoir des suivis, s'assurer que tout se passe bien au niveau traumatisme crânien, etc. Donc, je voulais simplement vous remercier. Je sais que c'est un drame comme sans mots. C'est quelque chose qui nous apporte tellement, tellement d'incompréhension.
Et il ne faut pas oublier tous ceux qui sont venus en aide aux victimes. Je joins ce soir Maxime Berger, ambulancier, chef d'équipe. Bonsoir, M. Berger.
Bonjour, madame.
D'abord, merci d'être avec nous. Vous étiez les premiers arrivés sur les lieux hier, un peu après 15 heures sur le boulevard Saint-Benoît. Dans un premier temps, là, qu'est-ce que vous aviez reçu comme appel initial?
Initialement, les alentours de 15 heures, on a eu un appel pour un accident de la route, comme vous avez mentionné, à l'endroit Saint-Benoît-Ouest, à Amqui. Et on est arrivé à ces lieux, on avait plus ou moins d'informations. Là, vraiment, là, c'était plus difficile d'avoir les informations. Puis sur place, bien, on voyait la gravité de l'état, bien... On a dû s'adapter rapidement et interagir, intervenir très rapidement.
Mais justement, là, quand vous arrivez sur place, vous voyez la scène, les victimes multiples, comment ça se passe?
À ce moment-là, dans le fond, on a un travail très important, là, à avoir de nombreuses victimes comme ça. Puis quand on arrive les premières équipes, on est seulement deux TAP. Donc, on doit effectuer un triage, on doit effectuer vraiment une organisation de la scène, connaître l'état des patients, puis savoir vraiment déterminer quel patient qui doit quitter les lieux en premier, toujours en gardant comme objectif de, de sauver le plus de gens possible.
Mm-hmm. Vous avez fait, franchement, là, tout un travail, mais humainement parlant, ça ne doit pas quand même être évident là, de devoir traiter autant de victimes en même temps.
Effectivement, humainement, je pense que toutes les personnes qui ont malheureusement participé à cet événement ou même juste vu la scène, c'est horrible. Puis c'est sûr que nous, de notre côté, au niveau professionnel, tous les acteurs, que ce soit préhospitalier ou hospitalier, ont fait un travail extraordinaire. Puis au niveau émotionnel, c'est sûr que on vit tout un peu la même chose. On voit tout ce qui se passe présentement. Puis c'est sûr que d'un côté, on vit des stress, on vit une responsabilité avec tout ça. Puis il faut apprendre à les gérer. Puis il faut apprendre à...
Ouais.
On effectue nos protocoles, on effectue tout ce qu'on a besoin.
Oui. Au-delà du protocole, au-delà, c'est clair que vous devez vous faire une carapace, mais c'est franchement pas humain ce que vous avez vu. Surtout que je présume que les gens se connaissent aussi, qu'il y a certains de vos collègues qui connaissaient certaines victimes. Quel sentiment vous habite aujourd'hui?
Ben, t'sais, aujourd'hui, t'sais, c'est un petit peu difficile de répondre, je pense, aussi rapidement. Après une situation comme ça, on se parle entre collègues, on essaie de débriefer un peu sur la situation. C'est certain qu'il y a certains collègues qui connaissaient probablement les victimes de ça. C'est sûr que nous, on essaie de se soutenir autant avec le CIS, avec l'employeur par action. On essaie vraiment de s'organiser, de se réunir puis de vraiment débriefer de cette situation. C'est toujours pas évident.
Oui, bien, prenez du temps pour vous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue puis bravo pour votre travail.
Enfin, merci beaucoup.
Merci. Puis la classe politique a aussi réagi, vous le comprendrez. Le drapeau sera d'ailleurs mis en berne au Parlement de Québec. Le premier ministre François Legault se rendra à Amqui jeudi.
J'ai demandé aussi aux trois chefs d'opposition de m'accompagner jeudi pour aller poser un geste de réconfort auprès de la population.
Ça fait mal au moral des Québécois, des Québécoises. Donc, je veux, au nom de Québec solidaire, bien sûr, partager mes condoléances aux familles des victimes. On souhaite tout ce qu'il y a de mieux aux gens qui sont blessés en ce moment. Et puis, je veux remercier aussi les premiers répondants qui ont été sur la scène. C'est pas facile, dans le cadre de son travail comme être humain, de répondre à des appels comme ça. Donc, on les remercie pour leur service.
Ça amène nécessairement plein de questions. Qu'est-ce que, collectivement, on pourrait faire pour faire en sorte... que de telles tragédies n'aient pas lieu. Nous croyons et nous sommes prêts à participer à une réflexion collective. Les solutions, on ne les a pas toutes ce matin, bien évidemment.
Québec solidaire s'empare d'un bastion libéral en remportant l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Réactions et commentaires au retour. À tout de suite.
Vive, n'est-ce pas?
Alors, on s'attendait à une lutte serrée lors de l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Et finalement, le candidat de Québec solidaire a remporté une écrasante majorité. Guillaume Clich-Rivard devient ainsi le 12e député de Québec solidaire avec tout près de 45 % des voix. Il a réussi à ravir un château fort libéral. Voici le résumé de Sabrina Rivet.
Le 12e député solidaire, le premier député solidaire de l'histoire de Saint-Henri-Sainte-Anne. Mesdames et messieurs, accueillons... Guillaume Clich-Rivard!
Au lendemain de sa victoire dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Clich-Rivard était accompagné de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, les co-porte-parole de Québec solidaire, pour revenir sur sa victoire écrasante dans la circonscription.
L'élection d'hier est venue nous dire qu'on a réussi cette fois-ci. À 45 % là, c'est clair que nous avons réussi à rassembler les gens.
Avec grande humilité qu'on prend cette victoire-là. On veut continuer à bâtir des ponts, on veut continuer à représenter tous les citoyens, toutes les citoyennes de la circonscription.
Cette victoire-là, c'est une bouffée d'air frais. C'est la confirmation qu'il y a une opposition face à François Legault au Québec et que l'opposition la plus efficace face au gouvernement de la CAQ, c'est Québec solidaire.
Il y a plusieurs enjeux dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, mais quel sera la priorité de Guillaume Clich-Rivard.
Logement, logement et logement, ce sont mes priorités, ma priorité. Et c'est ça l'enjeu ici dans le Sud-Ouest. Les gens de la misère à se trouver un appartement, les gens de la misère à payer leur loyer. Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés là-dessus. Fait qu'il faut qu'on construise logement, il faut qu'on construise logement social, il faut qu'on débloque les fonds pour les projets qui sont déjà prévus, il faut qu'on contrôle les hausses de loyer, il faut qu'on fasse attention aux rénovictions, aux évictions, il faut qu'on protège nos aînés. Alors, il y a une panoplie de mesures qu'on peut mettre de l'avant, puis Québec solidaire a le bilan, les propositions et l'expertise pour les mettre de l'avant.
Pourquoi c'est important pour vous de vraiment aller voir les gens?
Bien, c'est comme ça qu'ils sentent qu'on est là pour eux, parce que finalement, on veut être leur voix à l'Assemblée nationale. S'ils ne nous voient pas, bien, ils ne vont pas croire qu'on peut les représenter. On a 7 stations de métro dans Saint-Henri-Sainte-Anne. On les a faites les 7 plusieurs fois pour être sûr que les gens nous voient. On est allé dans les épiceries, on a fait le tour des commerces. On a cogné à des milliers de portes, on a fait des milliers d'appels, on a passé des milliers de tracts. Donc, vraiment, c'est la présence, se faire voir, évidemment, nos pancartes, l'équipe, les bénévoles, c'est tout ça qui fait la différence.
Le nouvel élu de Québec solidaire devra maintenant apprendre à jongler avec sa nouvelle carrière et aussi sa vie de nouveau papa.
Famille, ma conjointe, tout le monde est prêt. On était dans la discussion avant. Je pense qu'on était en connaissance de cause. L'équipe solidaire est une équipe qui m'a promis que la conciliation travail-famille était super importante pour eux. Il y a des beaux exemples. Il y a beaucoup de jeunes parents dans l'équipe solidaire, Gabriel notamment. Donc, je pense que c'est important pour le parti. C'est important pour qu'on ait des jeunes en politique, qu'on mette des mesures. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur ce volet-là. Mais ça va être un défi à jongler tout ça, mais j'espère qu'on va y arriver puis on va travailler très fort pour ça.
L'histoire de Québec solidaire a pris beaucoup de place, vous le comprendrez, lors de la rentrée parlementaire à Québec. Le chef du Parti libéral, Simon, a affronté les journalistes ce matin à son arrivée.
Oui, tout à fait. Les libéraux qui viennent à peine de terminer d'analyser le revers qu'ils ont subi lors de la dernière élection générale, que là, doivent analyser la défaite hier dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Souvenez-vous, hein, le comté de Dominique Anglade, où la principale intéressée au lendemain de l'élection générale disait que le parti était désorganisé régionalement, qu'il y avait du travail à faire là-dessus. Mais pourtant, là, dans Saint-Henri-Sainte-Anne, c'était un bastion libéral et la machine libérale donc n'a pas réussi à faire sortir le vote vraisemblablement. Le chef par intérim, Marc Tanguay, là, qui prend quand même sa part de responsabilité là-dedans.
On se dit toujours, j'aurais-tu pu faire plus, j'aurais-tu pu faire différemment. Et ça fera partie des questionnements qu'on aura en équipe dans les prochains jours, prochaines semaines. Très clairement, encore une fois, le Parti libéral du Québec, là, c'est un résultat pour nous qui est un échec. Là. C'est un échec, là. On ne va pas se le cacher. Et collectivement, les militants également, on doit se poser les questions. Comment le Parti libéral du Québec peut reconnecter avec la population partout au Québec? Et ça, c'est un travail, c'est un effort collectif que nous devrons faire, auquel moi, le premier, je vais participer.
Bon, Simon, maintenant, le Parti québécois a fait mieux que lors de l'élection générale, mais accuse quand même Québec solidaire d'être plus libéral que les libéraux.
Moi, c'est l'analyse que fait Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui dit qu'en campagne, lors d'Ancien-Henri-Sainte-Anne, Québec solidaire va distribuer, entre autres, des pamphlets où tout était écrit uniquement en anglais, ce que même les libéraux ont pas osé faire. Il n'y a pas été question de souveraineté pour Québec solidaire non plus, qui se dit un parti pourtant souverainiste. Il n'y a pas été question du déclin de la langue française non plus lors de cette campagne dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Bon, c'est donc une étiquette là, qui ne semble pas trop énerver Québec solidaire.
Merci. D'une certaine manière, Québec solidaire a mené une campagne plus libérale que les libéraux qui, eux, n'osaient pas faire des communications seulement en anglais. Donc, clairement, le plan de match de Québec solidaire, c'est de remplacer les libéraux. Et ils ont agi davantage en libéraux que les libéraux eux-mêmes.
À l'époque, on nous disait qu'on était juste capable de battre des PQ, que ça servait juste à ça, Québec solidaire, battre des circonscriptions péquistes. Là, aujourd'hui, on se fait dire l'inverse. Donc, moi, au-delà des caricatures, je pense que les gens savent ce que c'est Québec solidaire.
Merci beaucoup, Simon.
Bonne soirée.
Salut Yves.
Salut Marie-Christine.
Es-tu surpris?
Honnêtement,
de la victoire de Québec solidaire, on
oui, ben, c'était serré. On s'attendait à ce que Québec solidaire fasse bien, mais qu'il gagne par une aussi forte marge.
Ouais.
Oui, ça m'étonne. C'est vraiment une tonne de briques qui vient de tomber sur la tête du Parti libéral, comme s'ils n'avaient pas déjà assez de problèmes. Bien sûr, c'est une partielle, seulement 31% de participation. Alors, il ne faut pas tirer trop de conclusions, mais s'il y a une chose que le Parti libéral a toujours su faire, c'est faire sortir le vote quand ça comptait. Et là, ça prend ça a une portée symbolique vraiment importante parce que c'était le comté de la chef et ils se font battre là, sur leur propre terrain, quoi.
C'est une méchante claque, qu'on pourrait dire.
Ah, bien oui, vraiment. Écoute, après cette défaite historique de l'automne dernier.
Mais qu'est-ce qui explique le fait que Québec solidaire soit rentré aussi fort, selon toi?
Bien, d'abord, il faut voir la déconnexion du Parti libéral. Le Parti libéral est perdu en ce moment. Ils ne savent pas où se situer. Écoute, quand tu as moins de 10 %, certains sondages parlent de 4 % des francophones qui appuient le Parti libéral. Et c'est une catastrophe. Tu ne peux pas, tu peux évidemment pas gagner une élection, encore moins me faire élire qui que ce soit, même en dehors de Montréal. Alors, donc.
Mais est-ce que tu penses que. Marc, non, on tombe évidemment dans les hypothèses, pour ça, mais est-ce que tu penses que ça va jouer sur le leadership de Marc Tanguay?
Bien, c'est sûr que c'est pas bon pour lui, mais en même temps, lui hérite d'une accumulation historique. La marque du Parti libéral est ternie depuis longtemps, depuis les allégations de corruption sous Jean Charest. Ensuite, les années de Philippe Couillard, qui ont été des années de compression budgétaire et qui ont fait mal à la réputation du parti. Et finalement, donc, ils n'arrivent pas à s'affirmer comme un parti qui peut être l'alternative. En ce moment, il n'y en a pas, par contre. Mais au moins, Québec solidaire, parce que tu me demandais qu'est-ce qui explique leur succès, bien, ils ont un programme précis. Bien sûr, c'est pas vraiment l'indépendance. Il y a à peine 42-43 % des gens qui votent pour Québec solidaire qui sont souverainistes.
Mais ils ont parlé vraiment de logements sociaux.
Exactement.
Et c'est très ciblé comme
voilà.
Annonce.
Leur, leur positionnement à gauche est bien campé. Ils savent qui ils sont, les libéraux. On se le demande.
Merci, Yves. À demain.
À demain.
Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle@commercialnouveau.info. Bonsoir Jean-Simon.
Bonsoir Marie-Christine.
Alors, les besoins en famille d'accueil sont criants en Mauricie-Centre-du-Québec.
Absolument. Et puis, c'est au point où l'an dernier, à un moment donné, il y avait des jeunes de la DPJ qui étaient dans des centres de réadaptation pas du tout adaptés à leur réalité. Et là, présentement, au Beaumont, il manquerait à peu près 150 places pour héberger les enfants qui sont sur la liste d'attente de la DPJ. Sauf que tu te doutes bien, Marie-Christine, comprends pas n'importe qui sur le coin de la rue en disant « Tu vas accueillir des jeunes de la DPJ. » C'est des jeunes qui ont un passé, des jeunes qui ont vécu des situations pas évidentes. Donc, il y a des étapes importantes à franchir avant d'être considéré comme apte à être une famille d'accueil pour des jeunes de la DPJ. Je vous invite à écouter un extrait du reportage de notre collègue en Mauricie, Valérie Gendron, qui explique un petit peu ce que ça prend pour être une famille typique pour accueillir des jeunes de la DPJ.
C'est sûr que quelqu'un qui serait très volatile dans sa vie, ça peut devenir complexe d'offrir une stabilité à l'enfant. C'est la raison pour laquelle certains critères sont établis. Mais oui, une personne seule, célibataire, pourrait très bien accueillir un enfant, il n'y a pas de problème.
Comment s'assurer que la famille d'accueil, c'est des personnes bienveillantes?
C'est une excellente question. C'est la rigueur de notre processus d'évaluation qui va apporter, je dirais, le plus possible. On n'est pas à l'abri, évidemment, de certaines choses qui pourraient nous échapper lors de l'évaluation.
Et ce débat-là arrive au moment où on se questionne sur la sécurité des jeunes avec des histoires qui ont marqué l'imaginaire. On vous donne la suite au film Mauricie dans quelques instants.
Bon bulletin.
Merci.
Et bien sûr, on continue de suivre ce qui se passe à Amqui. Je retrouve ce soir la mairesse Sylvie Blanchette. Madame Blanchette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
D'abord, toute l'équipe se joint à moi pour vous offrir toutes nos sympathies. On en est à quoi? Plus de 24 heures après les événements. C'est un lendemain tellement difficile pour vous, votre communauté. Comment s'est déroulée votre journée?
La journée d'aujourd'hui s'est déroulée très, très, très occupée. OK, c'est sûr. Hein? Encore sous l'adrénaline, je vous dirais. Ce matin, très tôt, j'ai rencontré quand même des gens de la Sûreté du Québec. Je voulais savoir comment la courte nuit s'était déroulée parce qu'eux, ils ont été en fonction toute la nuit pour reconstituer la scène et tout. Alors, c'est ça. Ensuite, je ne vous cacherai pas que ça a été Comme vous avez vu qu'on a dû remettre à quelques reprises, c'était des entrevues quand même toute la journée. Je comprends que les journalistes aussi désirent savoir. Les gens désirent savoir aussi. On a beaucoup de messages. Fait que,
je pense que, tout le Québec est tellement touché par et ébranlé par ce que votre communauté vit en ce moment. De voir que les politiciens se déplacent, vont vous rencontrer, vont parler avec vos citoyens. Comment c'est reçu, ça, par votre communauté?
Bien, c'est très, très bien reçu. J'ai pas pu encore partager tout avec notre communauté. C'est sûr qu'hier, j'ai eu un appel de M. François Legault, premier ministre. J'ai eu un appel de ministre André Laforêt.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, François Legault?
Bien, c'est ça, c'est des mots d'encouragement. Qu'ils étaient là aussi, si on avait besoin, quoi que ce soit, qu'il était disponible, qu'on pouvait communiquer avec lui, communiquer avec son cabinet. Fait qu'il s'est montré très, très sensible avec qu'est-ce qui nous arrive comme tragédie. Fait que je pense que c'était quand même des premiers mots d'encouragement. Puis c'est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle. Oui. Ce sont des mots d'encouragement. C'est ce qui nous donne de l'énergie. Tous les bons mots qu'on reçoit, tous les bons messages qu'on reçoit, c'est ce qui nous nourrit en énergie de ce moment-ci.
Oui, on comprend. Puis la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est doublement un choc le fait de savoir que c'est un de vos citoyens qui aurait commis donc délibérément ce crime odieux?
Que ce soit n'importe qui, de toute façon, comme vous dites, c'est vraiment odieux. Oui, c'est un... ce qu'on nous dit, c'est un citoyen d'Amqui. Je le connais pas personnellement, mais comme je vous dis, que ce soit n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de la famille. Il y a peut-être de la famille dans la région, encore là, je le sais pas. Mais à l'heure actuelle, je vous dirais que mes pensées, mes préoccupations sont surtout pour les personnes qui sont touchées, pour les personnes qui sont blessées, qui sont encore à l'hôpital ou même celles qui ont été retournées à la maison, mais qui vivent encore sous le choc. Les familles proches de ces gens-là, les amis, mes pensées à l'heure actuelle sont beaucoup plus tournées vers ces gens-là. Puis ensuite, la justice, ben,
ça va suivre son cours.
On va voir qu'est-ce qui va... C'est ça exactement. Là. C'est vraiment les victimes. Au moment où on se parle, moi, c'est les victimes et leurs familles, leurs proches.
Oui, puis il y a de l'aide en place. C'est important de le préciser. Madame Blanchette, merci beaucoup et on vous envoie toute notre énergie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, c'est gentil de votre part. Bonne soirée.
La manifestation est illégale.
C'était en 2012, pendant le printemps érable, des citoyens qui ont été arrêtés en masse par les policiers de Montréal. En février dernier, on vous annonçait que la Ville de Montréal devra payer 6 millions de dollars en dédommagement pour avoir bafoué les droits de milliers de manifestants entre 2011 et 2015. Une somme qui sera versée aux participants de 16 recours collectifs et qui devait être accompagnée d'excuses publiques publiées dans les 10 jours suivants. Mais voilà, les manifestants trouvent qu'ils ont eu droit à des excuses à rabais. Fanny Lachance-Paquette.
Montréal va devoir verser 6 millions de dollars à des manifestants et présenter ses excuses. C'est ce qu'a décidé la Cour supérieure du Québec le 22 février dernier dans un dossier qui regroupait 16 recours collectifs de gens qui avaient été arrêtés massivement lors de manifestations à Montréal entre 2011 et 2015. On parle notamment de manifestations qui dénonçaient la brutalité policière, mais aussi pendant le fameux printemps érable. Et ce que la Cour dit, c'est que les droits de ces gens-là ont été bafoués.
J'ai été poivrée. J'ai été aussi... Il y a eu des gaz lacrymogènes. Puis quand il y a eu l'arrestation, en fait, on a juste été pris en souricière.
On aurait pu avoir accès à un avocat. Ils nous l'ont interdit. On n'a pas eu le droit d'appeler un avocat. Nos téléphones cellulaires ont été saisis. Nos effets personnels ont été saisis. Ils nous ont mis des tie wraps. Vraiment trop serré. Là. Moi, j'ai eu les mains enflées, j'ai eu des bleus sur les mains tellement ma circulation a été coupée. Puis longtemps aussi, là, parce qu'un coup qu'ils nous ont mis dans les autobus, ils nous ont laissé poireauter là. Il faisait super chaud. On n'avait pas d'eau, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas aller aux toilettes.
Je fais encore des cauchemars aujourd'hui où, tu sais, il y a eu des bombes assourdissantes, alors je suis devenue hyper vigilante et sensible au bruit aussi.
Mais voilà qu'aujourd'hui, plusieurs manifestants font une sortie publique pour demander de véritables excuses publiques à la Ville de Montréal et au SPVM, parce que présentement, elles sont plutôt difficiles à trouver.
Nous ne voulons pas d'excuses au rabais.
Vous-même, vous avez tenté de les trouver sur le site Internet de la Ville, puis c'est un peu comme une blague, là. Oui, le jugement stipule que les excuses doivent être publiées sur le site Web de la Ville. Il y a juste un lien, il n'y a même pas un petit paragraphe qui explique le contexte. Sont virtuellement impossibles à trouver, les excuses.
C'est une des choses que je trouvais importante en allant en procès, c'est que notre voix soit entendue, que ce soit reconnu. Mais quand c'est reconnu, que ce soit public, qu'il y ait une prise de parole verbale, qu'il y ait vraiment une reconnaissance sincère.
Quelques heures après cette sortie publique, la mairesse Valérie Plante a tweeté disant que le droit de manifester est fondamental et nous le défendrons toujours, et qu'elle réitère les excuses de la Ville de Montréal. Mais au-delà du dédommagement financier et des excuses, comment la Ville de Montréal et le SPVM ont-ils réellement changé leur façon de faire lors de manifestations? Ils n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.
Si on s'excuse, mais qu'on reproduit les comportements, clairement, nos excuses n'étaient pas sincères. Puis on fait juste manipuler les gens pour les faire taire puis passer à autre chose, alors que, bien, c'est dur de passer à autre chose quand tu as des séquelles qui vont durer toute ta vie, là.
En pleine crise du logement, des milliers de locataires québécois se privent de sommes précieuses qui pourraient les aider à payer leur loyer actuellement. Le gouvernement du Québec offre, par exemple, une allocation de logement qui peut atteindre jusqu'à 2000 $ par an, mais son existence demeure méconnue. Emmanuel Runega a les détails.
Chaque semaine, on prépare 300 paniers. Les gens, ils n'ont pas d'argent. Le loyer est très haut.
On le sait, la crise du logement frappe fort au Québec. Certains ménages sont rendus à y consacrer 50, 60, voire 70 % de leurs revenus. Pour s'attaquer à ce problème, Québec a mis en place un programme d'allocation de logement. Sauf que très peu de gens le connaissent.
C'est en grande partie les gens qui viennent nous voir qui ont accès à cette mesure, parce que c'est une chose d'être admissible, mais là, faut remplir le formulaire, faut envoyer les pièces requises. Parce qu'on est allophone, ça peut poser des défis. Puis en plus, à chaque année, il faut que le locataire revienne remplir le formulaire d'allocation logement. S'il ne se fait pas, bien, l'allocation est coupée.
Vous avez raison, on doit, puisqu'on a des bons programmes puis qu'on a fait des efforts, c'est important que ce soit connu. Et ce que Revenu Québec fait, c'est un effort pour le faire connaître puis qu'il soit utilisé.
Il va falloir qu'il ouvre un dossier.
C'est sûr qu'il pourrait y avoir un processus plus simple. Ou est-ce que c'est même possible, avec Revenu Québec, de le mettre en place automatiquement dès que tu es un locataire? Tu réponds à l'admissibilité financière et ta situation familiale. On va directement te verser l'allocation logement ou un crédit avec les impôts. C'est sûr que ça va faciliter les choses et qu'il y a beaucoup plus de locataires qui seront bénéficiaires de cette aide.
Et il y a aussi l'enjeu des sommes octroyées. Le programme a été légèrement bonifié, mais en 2021-2022, les bénéficiaires ont reçu en moyenne moins de 75 $ par mois.
Le gouvernement veut donner cette impression qu'on aide les locataires à faible revenu à être en mesure de payer les loyers, mais avec la flambée des loyers en ce moment, cette aide est presque symbolique. Lorsqu'on a un loyer de 1 000, 1 200, 1 300, 100 $, c'est pas une solution là, pour les locataires à long terme. Là.
Autre palier de gouvernement, même problème. Un programme fédéral lancé en décembre dernier et qui offrait 500 $ à certains ménages à faible revenu arrivera à échéance le 31 mars prochain. Et ça même si beaucoup de personnes n'ont jamais été mises au courant de son existence.
La mesure est mal publicisée. On ne l'a pas vu passer. Peu de gens n'ont entendu parler. Là, on tombe dans la zone, dans le temps des impôts maintenant. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre au mois d'avril avec leur préparateur d'impôts, leur comptable, etc., qu'ils ont droit à cette mesure-là, tu sais. Alors, donc, puis là, ils vont être trop tard. À mon avis, on pourrait repousser quelques mois. Moi, j'ai demandé 3 mois pour que les gens puissent être au courant de ça, puis qu'on fasse une campagne. Ce qu'on a besoin en ce moment pour faire face à la crise du logement, c'est de construire des logements, c'est d'augmenter l'offre de logements. Donc là, on va dépenser beaucoup d'argent. Je pense qu'ils prévoyaient que ce serait peut-être 1,5 milliard qui serait dépensé pour envoyer un chèque à des gens. Mais l'année prochaine, on va faire quoi? La crise du logement, elle ne va pas disparaître. Ce 500 $-là va aider à payer le trop cher du logement en ce moment. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme si on nourrissait la bête.
Le couperet tombe encore une fois chez Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Le PDG de l'entreprise a annoncé que 10 000 emplois seront supprimés. Ça s'ajoute à une autre vague de mise à pied qui avait affecté 11 000 salariés en novembre. Près du quart des effectifs de l'entreprise ont été perdus en moins de 6 mois. Meta espère réduire ses dépenses de 3 milliards de dollars. Change complètement de sujet. Un aquarium va ouvrir ses portes l'an prochain sur le site du Royal Mount à Montréal. Les responsables du projet parlent d'un aquarium de classe mondiale. C'est le groupe Eco-Recréo qui s'occupe du développement et de l'exploitation du projet. L'entreprise, lancée en 2015, le parc d'hébertisme Voile en Voile dans le Vieux-Port de Montréal. L'aquarium de Montréal sera doté d'une mission éducative et scientifique. La Russie frappe un immeuble résidentiel dans l'est de l'Ukraine. Le journaliste indépendant Fabrice de Pierrebourg était sur place. Il nous raconte ce qu'il a vu au retour. On fait le point maintenant sur la guerre en Ukraine. Un missile russe a frappé un immeuble à Gramatorsk. C'est dans la région du Donetsk, dans l'est du pays. Cette attaque a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le président Volodymyr Zelensky a précisé que 6 immeubles avaient été endommagés par la violente explosion. Gramatorsk a été aussi régulièrement la cible, il faut le dire, de bombardements russes depuis le début du conflit. Pour faire le point, je joins le journaliste indépendant Fabrice de Pierrebourg, actuellement en Ukraine. Bonsoir, Fabrice.
Bonsoir.
Tu étais justement ce matin à Gramatorsk. Raconte-nous ce qui s'est passé.
On ne sait pas si c'est un missile ou une roquette qui est tombée sur un immeuble d'habitation d'environ 3 étages vers 8h30 le matin. Et les dégâts étaient évidemment importants. Une partie de la façade s'est écroulée, escalier intérieur en béton effondré. Et le bilan, un mort, effectivement, une dizaine de blessés. Mais ça s'ajoute à toutes les attaques qui tombent régulièrement sur toutes ces villes autour de Bakhmut principalement. Kramatorsk, ça a été le cas surtout, on s'en souviendra, au mois d'avril dernier, d'une attaque contre la gare de Kramatorsk avec peu des réfugiés qui étaient là, 60 morts, plus de 100 blessés. Donc c'est une ville qui souffre et plus elle est proche du front, plus elle est visée par des attaques directes ou indirectes.
Et puis à Bakhmut, comment ça se passe aujourd'hui?
Oh, c'est une situation difficile, hein, mais on sait que la moitié de la ville est prise par les forces russes régulières et celles des milices au Wagner. Donc c'est à la fois une bataille à l'extérieur, dans la boue, dans les tranchées, dans la pluie, très pénible. Et à l'intérieur, c'est une guerre urbaine. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à des soldats qui combattent à Bakhmut. Ils sont unanimes pour dire que c'est une situation littéralement effrayante. Il y a un soldat qui m'a dit « il n'y a que les idiots qu'on va peur à Bakhmut ». Parce que des milliers, c'est un combat rue par rue, maison par maison. Ce soldat a été blessé par un jet de grenade il y a quelques jours. Et il me disait qu'il a attendu une journée avant de pouvoir être évacué. Deux de ses collègues sont morts. Ouais. Et apparemment, les Russes, mais c'est peut-être un bilan à prendre avec des pincettes, on dit que les Russes ont perdu 1000 soldats ce week-end à Bakhmut et que le rapport de force, c'est pour 2 soldats ukrainiens tués, il y a environ 7 soldats russes tués. Ça vous donne une petite image du bain de sang. On a attribué à Bakhmut ce nom effrayant de hachoir à viande. C'est très imagé, mais ça explique.
Oui, mais justement, Fabrice, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te frappe le plus humainement parlant?
Tous ces villages, toutes ces villes qui sont autour, entre autres, de Bakhmut, qui subissent de plus en plus de bombardements. Moi, je suis là depuis une semaine, j'ai eu l'occasion d'en voir, d'en entendre. Il y a encore des civils qui sont coincés dans ces villes, dans ces villages, qui sont littéralement au bord du front. Et puis, en arrière de ça, il y a une concentration incroyable de forces militaires et de matériel. C'est 20 km en arrière de cette ligne de front, c'est que des militaires partout, des véhicules, des blindés qui vont, qui viennent. Et puis les soldats ukrainiens tiennent cette ville. C'est leur but maintenant, éviter qu'elle soit encerclée complètement, en attendant les renforts et les chars Léopard, par exemple, ultramodernes qui vont venir d'Europe.
Donc, écoute, Fabrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir fait le point sur la situation là-bas. Merci.
Merci.
Michel, il y a un nouveau reportage diffusé hier qui a fait réagir à l'Assemblée nationale.
Reportage d'Émilie Clavel là, qu'on présentait hier sur les victimes de violences conjugales accusées d'aliénation parentale. Eh bien, il y a le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, qui affirme être au fait du problème. Il a expliqué que des réformes sont déjà amorcées pour y remédier. On l'écoute. Ah, il y en avait comme un court extrait qu'on ne pourra pas vous présenter, mais voilà, il réagissait donc à... Parfait. À ce reportage.
Que vous pouvez certainement voir sur notre site nouveau.info.
Oui,
débatteur, ce soir, on change complètement de registre. On va parler de voitures électriques.
Oui, parce que dans le cadre du Sommet international de transport électrique et intelligent qui se déroule à Montréal en ce moment, il y a le gouvernement du Québec qui a annoncé hier 60 millions de $ pour 367 nouvelles bornes de recharge là, dans le réseau public. L'objectif du gouvernement, en fait, c'est qu'on lâche à un moment donné les voitures à essence. Notre question ce soir, est-ce que vous pensez que le Québec va réussir à mettre fin à la vente des voitures à essence dès 2035, comme ça avait été annoncé? On va en débattre avec François Lambert, Dominique Vallière, également Maude Goyer et Victor Henriquez. Allez répondre à la question. C'est en direct. Le débat à 22h30.
Intéressant. T'es tellement branché, de toute façon. Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. À demain, 17h.